Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. On appelle ça le syndrome du nid vide. Quand les enfants quittent le toit familial et laissent un certain silence dans la maison, ils auraient pu rester encore un peu, on n'a pas vu le temps passer, et pourtant c'est inéluctable. Difficile de s'y faire quand l'enfant unique ou la petite dernière quitte la maisonnée pour voler de ses propres ailes. Ces départs laissent rarement les parents indifférents, un tsunami émotionnel complexe entre sentiment du devoir accompli et sentiment d'inachevé. Mais après tout, pourquoi ne pas se réjouir de ce calme enfin revenu, de la fin du désordre, du frigo qui ne sera plus à remplir constamment comme dans un jour sans fin. C'est aussi la fin d'une vitalité, d'une joie du foyer. Il va falloir négocier avec ce blues de l'enfant qui vit sa vie loin de soi, se réinventer, négocier un nouveau rôle parental. Comment vivre ce moment un peu difficile? Comment accompagner cette angoisse, ce sentiment de vide affectif? Père et mère vivent-ils les choses de la même manière? Comment anticiper ce départ? Et à quoi peut ressembler la vie d'après? Nos expertes essaieront de répondre à toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Vous retrouverez bien évidemment les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien écoutez, on va parler des enfants, mais on va surtout parler de podcasts et de Shiva.
Bon, ben ça promet. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Maman, arrête de filmer.
Mais je filme la famille, tu vois ce que
ouais,
c'est la famille?
Sur la famille, super.
Et moi, pourquoi tu me filmais pas?
Mais parce que à l'époque, chérie, il n'y avait pas de... d'iPhone.
Bah ouais, enfin, on avait une petite caméra. Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait.
Mais non, mais pas du tout, chérie, pourquoi tu dis ça?
Bah si, regarde, là, comment t'anticipes son départ, alors que moi, t'étais limite contente que je parte.
Mais non, j'étais pas contente que tu partes, c'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison, là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi.
Ouais, et on n'est pas morts, Théo et moi. T'es encore notre mère.
Oh, la fatigue.
Extrait du film Mon bébé en 2019. Bonjour Charlotte Attry.
Bonjour.
Vous êtes journaliste formée en psychologie. Bonjour Brigitte Carrère.
Bonjour.
Vous êtes autrice et vous avez travaillé dans le milieu socio-médical. Vous publiez chez Bambou Éditions le syndrome du nid vide dans la collection Toi et moi, on s'explique. C'est absolument formidable avec des illustrations de Princesse H. Bonjour Corinne Mayer.
Bonjour.
On se souvient des succès en librairie de Bonjour Paris et de No Kid, et vous publiez un réjouissant essai Dehors les enfants, un essai sur ces enfants qui refusent de quitter le cocon familial. J'ai pas l'impression que vous ayez été frappé par ce syndrome du nid vide, vous.
Non, non, mais mon livre concerne le syndrome du nid plein. C'est-à-dire les enfants qui pèsent à leurs parents, enfin les grands enfants, et avec les parents qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils partent enfin, en fait, pour pouvoir vivre leur vie et reprendre leur vie d'avant. Ça existe aussi, hein, c'est d'ailleurs plus répandu que le syndrome du nid vide.
Bonjour Sandra Wacklin.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Alors une phrase revient quand on est parent, profite, ça passe trop vite, Brigitte Carrère.
Oui, c'est ce que les parents entendent régulièrement, on leur dit quand ils sont tout petits, quand les enfants sont tout petits, et puis en fait ils n'ont pas le temps d'en profiter vraiment. Donc c'est un petit rappel, quoi.
Ça passe tellement vite qu'un jour, ces enfants deviennent grands et décident de quitter la maison, quelle que soit la raison, et on ne peut pas s'empêcher de se dire déjà.
Déjà, oui. Bah justement, c'est passé très vite parfois et on se dit mais c'est pas possible. Ils étaient dans leur poussette hier. Oui. Donc oui, c'est surprenant. On est un peu pris parfois de court et par les sentiments notamment qui commencent à monter comme une vague qui submerge. On s'attend pas toujours à ce sentiment de vide, d'inutilité. On s'y prépare pas en fait. On n'est pas prêt à ça.
Corinne Mayer, vous, c'est pas ça s'est vite passé. C'est encore trop long. Oui. Hein
et... bah pour nous, je crois à la suite de nos fort, donc mon mari et moi, je crois qu'on a quasiment fini. C'est-à-dire il est quasiment parti. De toute façon, on ne vit plus avec le modèle de mon anti-héros qui s'appelle Ulysse, qui a 25 ans. Et je pense qu'on a quasiment fini, donc on est ravis, mais c'est on exulte. Enfin, c'est un tel soulagement de se dire, mais enfin, nos enfants ont pris leur envol, parce que c'est quand même pour ça qu'on les met au monde. Ouais.
Ça,
et je voulais dire une chose quand on dit, parce que c'est toujours des paroles extérieures qu'on plaque sur les femmes en leur disant, tu verras, ça passe très vite. Mais en fait, pour les femmes, ça passe très très lentement. C'est 15-20 ans de leur vie qu'elles consacrent, puisque c'est quand même aux deux tiers elles qui font le boulot, qu'elles consacrent aux autres. Donc c'est un poids terrible.
Brigitte Carrère.
Oui, alors il y a la notion de poids, effectivement, et puis il y a la notion de rapidité. De toute façon, ça leur semble quand même passer rapidement. On leur dit d'en profiter parce que ces moments-là ne reviendront pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas énormément de stress à ce moment-là, que c'est pas des moments qui peuvent être pénibles, et que une fois que les enfants sont partis, il va pas y avoir un grand soulagement parce que le stress il va s'envoler. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut profiter de chaque moment de la vie au moment où il passe.
Alors le départ des enfants, c'est un événement qui peut sembler brutal, et pourtant on le sait, on ne conçoit pas un enfant pour qu'il reste sa vie à la maison. Le départ de la maison est une étape logique, Sandra Wakenin.
Oui, tout à fait. C'est important pour un enfant de savoir prendre son autonomie. Et effectivement, plus tôt on autonomise, mieux le départ se fait. Plus on a en tête pour un parent de se dire, voilà, on ne fait pas des enfants pour soi, mais pour qu'ils deviennent adultes et qu'on l'éduque en se disant, on va en faire un jour des adultes, plus le départ se fait de manière satisfaisante et tranquille
et sereine.
Et sereine.
Et sereine. Voilà.
Ça s'anticipe, c'est ça.
Oui, c'est un mot clé, je pense, de la préparation, c'est que ça s'anticipe. Un parent, Sandra le dit très bien, il est là pour aider son enfant et l'accompagner vers l'autonomie. Et cette autonomie, après, elle est graduelle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'âge, mais on est là pour ça. Les parents sont là pour les aider. Et puis un jour, ils s'en vont et on peut en être fier parce que c'est qu'on a bien fait notre boulot de parent.
Exactement.
En fait.
Et vous, Corinne Maillard, vous avez essayé d'anticiper, hein?
Ah oui, moi j'ai anticipé parce que forcément, quand on voit que les choses traînent un peu, on est très inquiet. Mais je voulais dire aussi, on parle beaucoup de l'autonomie des enfants et des jeunes, mais pas assez de l'autonomie des parents et surtout des mères.
Elles sont liées. Les deux autonomies sont complètement liées. Ouais.
Oui, en théorie, mais enfin, là, elles en font tellement pour leurs enfants, finalement, elles s'oublient elles-mêmes et elles ne sont plus du tout autonomes. Donc, on ne parle jamais de l'autonomie des mères, mais la maternité aujourd'hui est vraiment construite comme un sacerdoce. C'est quasiment une maladie. Donc, c'est le problème, il est là.
Et d'ailleurs, le syndrome du Nivide, il se construit un peu là-dedans, parce que les mères qui se sont un peu oubliés dans l'éducation de leurs enfants. Quand leurs enfants partent, il y a un vide énorme.
Bien sûr, elles se sont totalement mises de côté elles-mêmes.
Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Toutes ces questions en plein dans la poire, quoi.
Qu'appelle-t-on exactement syndrome du nid vide?
C'est un sentiment de déprime, un petit peu, de blues qui prend les tripes et les sentiments. En fait, on se réveille le matin, on n'a pas vraiment de but, on ne sait plus trop où on va, on s'est un peu perdu dans ces années d'éducation. Et ouais, c'est comme une petite déprime, hein.
Ouais,
il faut faire la différence entre le nid vide et le syndrome du nid vide. En fait, le nid vide, c'est quand les enfants s'en vont. Et tous les enfants s'en vont, hein, enfin, en général, tous les
enfants.
À notre époque, en tout cas.
Non, non, il y en a plein, ils restent chez leurs parents jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il y en a plus en plus.
Il y en a
non, non, c'est pas qu'il y en a quelques-uns, c'est le symptôme de notre société. Il y en a
des.
En Europe, il y en a 17 millions. Enfin, vous pouvez pas dire qu'ils partent. Non, non, ils partent pas.
Sûr.
Enfin, un certain nombre.
Bon, alors, ils sont faits pour partir, en fait, ces enfants. Donc ça, c'est le nid vide. Et ensuite, le syndrome du nid vide, ça va être une série de sentiments qui vont être plus ou moins mal vécus. Après, on peut avoir les mêmes sentiments et puis le vivre plus ou moins mal selon les parents.
Sandra Wakenin, d'un point de vue psychologique.
D'un point de vue psychologique, effectivement, on pourrait parler presque d'une dépression exogène, c'est-à-dire qu'il y a une raison extérieure, finalement. Mmh. Et effectivement, on retrouve tous les symptômes d'un épisode dépressif.
Par exemple,
l'envie de rien, ce qu'on appelle le manque d'élan vital, parfois des pertes d'appétit, des pertes de sommeil, des tristesses quotidiennes.
Cette déprime particulière est-elle encore taboue ?
Oui et non, parce qu'en fait on en parle, on s'y prépare, tout le monde a déjà entendu, on ne fait pas des enfants pour soi, voilà, c'est une phrase qu'on... Mais malgré tout, ça reste une honte, parce que, comme vous le disiez Corinne, effectivement on est censé en tant que mère être épanouie et pouvoir aussi s'investir dans d'autres choses que la maternité, et finalement c'est presque... pour certaines, un constat d'échec de ne pas réussir à s'investir dans une nouvelle vie après le départ de ses enfants.
Charlotte Attrie.
C'est difficile un peu à assumer également d'en parler quand on a râlé parce que les enfants étaient à la maison, ils nous cassaient les pieds avec leur frigo, leurs horaires, leurs copains qui ramenaient à n'importe quelle heure. Puis d'un seul coup, ils partent et puis maintenant, on va râler parce qu'ils sont partis. Et donc, on n'ose pas trop, les parents entre eux, nous, on a interviewé pas mal de femmes qui nous disaient qu'elles n'osaient pas vraiment en parler. Et c'est notamment le fait de garder ce sentiment pour soi qui fait qu'il est difficile aussi parfois à porter.
Il y a un autre élément aussi qui intervient, c'est que quand une maman qui va se plaindre et qui va dire « moi j'ai pas trop envie que mes enfants partent » ou « je suis malheureuse parce que », je dis une maman, ça peut être un papa, hein, « je suis malheureux parce que mes enfants vont partir », bah, qu'est-ce qu'il va y avoir comme étiquette posée sur lui ? C'est une maman poule, c'est un papa poule et c'est pas, ça c'est pas tellement valorisé.
Que nous disent les enquêtes ? Les mères semblent plus touchées que les pères, Charlotte Attrie ?
Oui, et c'est lié au fait que la maternité, elles ont quand même endossé pas mal de responsabilités pendant des années, et encore aujourd'hui, elles le font plus que les papas. Et donc, quand les enfants partent, elles sont plus touchées dans leur quotidien, dans le côté logistique aussi de la chose, les allers-retours, ce genre de choses. Après, il y a également des papas, même les animaux du foyer peuvent vivre un syndrome du nid vide, donc tout le monde peut être touché, mais les études, effectivement, montrent que c'est principalement les mamans.
Sandra Wacklin, la peur est au centre de ce syndrome du nid vide, la peur, l'anxiété.
Oui, dans sa globalité, effectivement, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce que ça va bien se passer pour lui, est-ce que ça va bien se passer pour moi, et donc effectivement, oui, il y a beaucoup d'anxiété, comme vous dites. Ouais.
Et c'est une peur à laquelle se rajoutent tout un tas d'autres éléments qui vont peut-être arriver à ce moment-là. C'est souvent ce qu'on appelle un petit peu une période de milieu de vie, avec avec d'autres choses qui vont intervenir. Chez les femmes, il y a la ménopause qui est peut-être à ce moment-là aussi. On peut avoir des modifications dans son travail, on peut avoir des parents qui vieillissent avec tout ce qui peut se passer autour de ça, on peut avoir un couple qui évolue, on va dire. Bon, plein de choses, et c'est vrai que c'est une période assez lourde.
Alors, on l'a compris, Corinne Maier, on ne peut pas dire que vous ayez souffert de ce syndrome du nid vide. Certains enfants, comme le vôtre, refusent de quitter le nid familial, c'est le cas d'Ulysse dans votre livre, 25 ans. Vous écrivez qu'il reste incrusté dans sa chambre comme un meuble très lourd, rien n'indique qu'il a l'intention de partir. Vous avez cru à un moment que votre fils resterait à vie dans votre nid.
Oui, enfin, j'ai transposé quand même de manière un peu fictionnelle dans le bouquin, mais effectivement, l'héroïne de mon livre a très peur, d'ailleurs comme beaucoup de parents, que le jeune ne prenne jamais son envol. Et je pense que ce phénomène-là, c'est-à-dire le syndrome du nid plein, est plus douloureux et provoque beaucoup plus de réticence à la parole que le syndrome du nid vide.
Et de culpabilité aussi.
Et de culpabilité, parce qu'on se dit, j'ai peut-être échoué dans mon éducation. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Puis il y a toujours cette espèce de compétition avec les autres parents. Les autres parents s'en sortent mieux parce que leur enfant est parti, etc. Donc non, c'est beaucoup plus douloureux et c'est quelque chose dont actuellement les parents parlent très peu, alors que c'est très très répandu. C'est-à-dire, moi je parle de mon bouquin un peu partout, je parle du sujet depuis quand même près de 2 ans, puisqu'il aurait dû sortir il y a 1 an et demi. Et tout le monde me dit, ah oui, j'ai quelqu'un comme ça autour de moi, je connais, machin, mon fils, etc.
Brigitte Carrère.
Au début du siècle, c'était quelque chose qui était habituel. Ça, il y avait souvent dans les familles, presque tout le temps, il y avait un des enfants qui restait à la maison. C'était ce qu'on appelle le bâton de vieillesse, on appelait ça comme ça. Et donc, il restait à la maison, c'était son rôle, et donc c'était normal. Effectivement, normalement, maintenant, c'est plus tout à fait comme ça, mais on a encore ce phénomène qui perdure.
Mais Corinne Maier, je précise que vous avez désiré votre enfant, hein, vous l'avez désiré.
Dans le livre, oui, bien sûr, oui, il n'y a aucun doute, oui. Non, mais c'est le cas, en fait, je pense que ça arrive à des parents qui sont très investis, qui pratiquent avec enthousiasme et bonne foi l'éducation positive. C'est-à-dire, c'est à force de trop s'en occuper, de trop faire et d'être finalement des hyper-parents qu'à la fin, le jeune est trop bien, il est dans un cocon, on lui a dit bravo et je t'aime toute la journée pendant 20 ans, et que forcément, après, il a du mal à...
Il y a des parents qui font la fête quand ils partent. Jusqu'aux États-Unis, il y a vraiment des fêtes organisées. Ils les appellent les empty nesters et ils se regroupent, ils font des grosses fêtes, ils se prennent en photo.
Ça veut dire quoi en français ?
Alors, il n'y a pas de traduction. Ouais. Empty nester, ça veut dire les personnes qui vivent le nid vide. Il y a un mot aux États-Unis parce que c'est vraiment très catégorisé. Ça n'existe pas en France, mais je trouve ça sympa.
Sandra Wachnin.
Oui, comme le disait Corinne, effectivement, c'est un sentiment d'échec en fait. On a la sensation de ne pas avoir réussi à rendre autonome notre enfant. Dans un courant qui s'appelle l'analyse transactionnelle, on parle du parent nourricier. Et donc, quand on est un parent nourricier négatif, quand on nourrit trop son enfant, finalement, effectivement, ça empêche cette autonomie. Et effectivement, on a un peu la sensation d'avoir loupé quelque chose quand un enfant ne part pas de chez lui.
Alors, Brigitte Carrère, Charlotte Attry, le départ des enfants est bien sûr vécu différemment selon les époques et selon les cultures. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les enfants partent précocement du foyer familial. Corinne Maillard aurait adoré vivre au milieu du 19e siècle à certains égards.
Ça avait du bon, c'était mieux avant parfois.
Charlotte Attry.
Mais oui, bien sûr, les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, on partait travailler tôt, on faisait pas des études aussi longues. Le contexte économique aujourd'hui et puis la pandémie n'ont pas arrangé la situation, je pense, ces dernières années. Ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est un effet boomerang avec des enfants qui partent mais qui reviennent. Alors ça aussi,
oui,
c'est pas très évident à vivre pour les parents parce qu'ils ils ont vécu le départ, ils se sont adaptés, ils sont contents et puis boum. Il revient.
Et ce sont des adultes, donc c'est pas tout à fait les mêmes.
C'est le double effet qui se passe cool.
Il y a une époque charnière à partir des années 1950-60. Hein, l'espérance de vie s'allonge, la durée de la scolarité s'étire, la jeunesse devient une catégorie à part entière. Les parents partagent beaucoup plus de choses avec leurs enfants et les séparations deviennent plus tardive et donc un peu plus douloureuse, Charlotte Attry.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des enfants aussi pour qui c'est difficile. Il faut voir que c'est dans les deux sens. Après, c'est censé être un événement joyeux. Nous, là, ce qu'on explique justement dans le livre, c'est comment se réapproprier ce départ et le temps qu'on va récupérer pour en faire quelque chose pour soi, pour les parents qui sont oubliés notamment, et essayer de le vivre comme quelque chose de positif, voir un petit peu le nid plein dans le bon sens, j'ai envie de dire.
Alors, quelques chiffres, les enfants quittent la maison en France à 24 ans et demi pour les garçons et 23 ans pour les filles. Votre fils, Corinne Maillard, avait un peu dépassé la limite. Pour les 25-29 ans, il y en a 20% hein, qui continuent à vivre chez leurs parents. En Europe, les garçons partent en moyenne à 27 ans de la maison et les filles à 25 ans. Et aux États-Unis, chez les 18-34 ans, 36% des filles et 42% des garçons vivent chez leurs parents. Donc en France, on est quand même dans une moyenne relativement basse par rapport au reste de l'Europe et aux États-Unis.
Je vis aux États-Unis, donc je peux vous en dire un mot là-dessus. C'est aussi lié au coût de la vie. Les études coûtent très très cher. Donc en fait, les étudiants partent souvent pour leurs études. Il faut être capable d'assumer financièrement. Et bien souvent, ils n'y arrivent pas. Donc ils retournent chez papa-maman.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, bonjour Ali, bonjour à vos invités. Je rebondis sur ce que disait Sandra Wachnin en parlant des sentiments plus ou moins mal vécus, cette envie de rien, ce manque d'élan vital. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation finalement entre la charge mentale, dont on parle beaucoup, et le syndrome du nid vide ? C'est-à-dire ces femmes qui supportent toute la gestion de la maison, qui souffrent d'épuisement personnel, elles sont peut-être impactées différemment, plus fort, lorsque l'enfant s'en va ? Est-ce qu'il y a cette espèce d'effet ciseau finalement ?
Sandra Wachnin.
Oui, vous avez complètement raison. Effectivement, on peut faire le parallèle avec cette charge mentale, cette surcharge mentale, et effectivement le vide que ça laisse quand il y en a plus. Comment est-ce qu'on va combler finalement ce vide-là, l'espace psychique que tout ça laisse quand l'enfant part et quand il y a plus rien à gérer finalement.
Charlotte Attry.
Bah oui, pendant des années, on a dû gérer la maisonnée, les courses, les allers-retours, les rendez-vous médicaux. Donc, et si on a fait ça tard, quand les enfants partent, si on les a pas accompagnés à les vers l'autonomisation, c'est assez difficile. Et la charge mentale, on se sent très légère quand elle part. C'est comme si on mettait un certain nombre de kilos à la poubelle. Mais effectivement, il faut pouvoir combler derrière l'espace libéré.
En fait, il faut juste un petit temps d'adaptation. Et ensuite, la période qui vient après, elle est quand même beaucoup plus légère, hein, c'est sûr.
Redéfinir.
Alors, Corinne Maillard, vous avez tout essayé pour décoller votre fils de son rocher. Vous avez essayé un tas de méthodes pour l'expulser du nid. Alors, lui parler franchement, le menacer, cesser d'être gentil, ne plus s'occuper de lui. Vous avez tout essayé.
Oui, oui, non, mais il faut...
Racontez-nous un peu chacune de ces méthodes.
Il y a plusieurs étapes qui font partie, en fait, de cette progression vers la liberté du parent et surtout de la mère.
La libération.
Et effectivement, il faut y aller progressivement, commencer par des choses simples et puis ensuite monter la barre progressivement pour en arriver, s'il le faut vraiment, à lui pourrir la vie. Parce que c'est vraiment la seule façon. Ils sont trop bien, certains d'entre nous, enfin ceux qui s'incrustent, hein, sont trop bien chez leurs gentils parents qui ont donné en fait tout ce qu'ils pouvaient pour leur faciliter la vie. Les anglo-saxons parlent des parents hélicoptères, oui, qui les ont transportés de ci, de là, qui ont tout fait pour les épanouir, pour leur parler sans arrêt, qui ont respecté chacune de leurs phrases, même les plus absurdes. Chaque fois qu'ils faisaient un petit dessin, on leur disait bravo et je t'aime, et forcément le monde extérieur leur fait peur. Donc il faut faire en sorte qu'ils soient un petit peu poussés au derrière pour qu'ils y aillent en fait, qu'ils s'envolent enfin. Donc en effet, il y a différentes méthodes essayées par moi ou par d'autres, hein, d'ailleurs, puisque
c'est
on échange
enquête,
beaucoup.
C'est une enquête aussi votre livre.
Comment?
C'est une enquête aussi.
Oui, oui, c'est aussi une enquête. Je me suis aussi beaucoup appuyée sur des témoignages de gens que je connais qui se sont trouvés confrontés à la même situation. Et donc j'ai aggloméré tout ça pour donner des conseils utiles aux parents qui veulent enfin vivre leur vie.
Brigitte Carrère.
Oui, je pense qu'il faut aussi les rassurer sur une chose, c'est que nous, parents, mères, pères, on va continuer à être heureux quand ils ne seront plus là. Parce que parfois, inconsciemment, il y a un petit peu de ça aussi. Ils ont tellement l'impression que leur bonheur dépend de... que notre bonheur dépend d'eux, ils se disent, mais si je m'en vais, ils vont plus rien avoir à faire. Alors, c'est pas toujours bien conscientisé tout ça, mais quelque part, il y a un petit peu ça dans leur tête. Et ils se disent, si je m'en vais, qu'est-ce qui va leur rester? Donc, je pense qu'il faut leur montrer bien longtemps avant, pratiquement depuis la naissance, qu'on a une vie, qu'on est heureux, qu'on peut être heureux.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que nos livres sont complémentaires.
Exactement.
On va les accompagner sur ça. Oui, on a aussi une vie. Mais pas le leur dire nécessairement, mais le vivre de façon épanouie.
C'est hyper important pour des enfants de voir qu'il y a un couple parental, oui, et un couple conjugal aussi, en fait. Et qu'effectivement, c'est pas dangereux de laisser ce couple conjugal ensemble, seul, sans les enfants, pour les rassurer, les autoriser finalement à partir, qu'ils se sentent autorisés à nous laisser en tant que parents, que tout va bien se passer aussi. Vous avez complètement raison.
Dans quelques instants, nous accueillerons Séverine, hein, qui nous a appelé au standard, qui nous parlera de son syndrome du nid vide. On continue à s'intéresser à ce syndrome du nid vide quand les enfants quittent la maison. Vous verrez comment mettre à profit cette liberté retrouvée. Et on écoute Tracy Chapman.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Starting
talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
Tracy Chapman, Talking About a Revolution.
Ses bonnes manières, son sourire, sa culture.
Grand bien vous fasse.
Sa façon mielleuse qu'il a de s'exprimer.
À l'IRBI.
Et sa thèse, sa putain de thèse.
Sur France Inter.
Je peux plus le voir en peinture.
Ça, c'est pour Corinne Mayer, cet extrait de Tanguy. 10h31, et on s'intéresse ce matin au syndrome du nid vide, quand les enfants quittent la maison. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Depuis quelques mois, Houry et Dominique redécouvrent les dîners en tête-à-tête, au quotidien. Avant, la vie de famille ressemblait plutôt à ça. Une tablée animée par les trois sœurs, Jenny, Laurine et Cindy la Benjamine. La dernière a quitté le nid en septembre dernier.
Les premiers jours, c'était... Disons que j'étais un peu mélancolique. La petite, ça reste la petite, c'est elle qui est restée le plus longtemps avec nous. C'est vrai qu'elle a laissé un grand vide.
Partie à 27 ans vivre avec son amie, Cindy s'inquiète pour ses parents.
Je suis la dernière donc. J'ai vu ce que ça a fait quand les premières sont parties. Et moi, je savais que je les laissais tout seul. Au début, j'étais mal à l'aise. Je me disais, oh là là, il faut que je vienne au moins trois fois. Ça se fait pas, je peux pas partir. Et après, bon, bah, ils sont grands. Et c'est la vie, quoi. Mais j'essaie d'être là au moins une fois par semaine.
Attends, Cindy, je te donne le café.
De leur visite, les sœurs repartent rarement les mains vides.
C'est une façon de l'avoir encore un peu à vous.
Voilà, exactement. Et qu'elle ait besoin encore un tout petit peu.
Attention, des nouvelles, please.
Extrait d'un reportage diffusé sur LCI en 2019. Charlotte Attry, Brigitte Carrère, vous avez écrit Le syndrome du nid vide. Petite réaction à ce qu'on vient d'entendre, Charlotte Attry.
Ça fait sourire, évidemment. En fait, quand un enfant part, ça déséquilibre tout dans la famille. Donc, au niveau de la fratrie, au niveau du couple, c'est comme sur une balance, on enlève un poids et puis d'un seul coup, faut retrouver le bon équilibre, quoi. Donc, mais oui, c'est drôle, le côté, ils sont grands maintenant. C'est la vie. Ouais, bah ouais, c'est une étape.
Sandra Wakelin, vous êtes psychologue clinicienne, sur ce tsunami émotionnel que charrie le départ des enfants.
C'est très compliqué, donc à la fois enfin c'est compliqué pour tout le monde en fait. Il faut avoir en tête que c'est compliqué pour les parents, mais c'est compliqué aussi pour l'enfant, même si effectivement quand il part, c'est pour de la nouveauté, c'est pour du bon, enfin la plupart du temps en tout cas, hein, c'est volontaire. Malgré tout, effectivement, il y a tout un tas d'émotions qui submergent chaque membre de la famille, que ce soit les frères et sœurs, les parents et l'enfant.
Et oui, la fratrie est également affectée, hein, Brigitte Carrère. Hein.
Oui, bien sûr, mais par exemple, si s'il reste encore un enfant à la maison, il se retrouve tout seul avec les parents et c'est assez lourd pour lui. Il a un poids sur les épaules qui lui pèse et puis en général, il a juste envie de partir. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est ce qui s'est passé chez moi. Mes deux grands garçons sont partis pratiquement en même temps et ma fille qui est restée après. Bon, bah il lui tardait de partir en fait. Elle était bien avec nous, je crois, hein, n'est-ce pas, Fanny? Mais il lui tardait de partir.
Charlotte Attry, sur cet équilibre, ce déséquilibre au sein de la fratrie.
En fait, c'est assez logique parce que quand il y en a un qui part, ça redistribue un petit peu le temps de parole. Et puis, les parents vont parfois réinvestir quelque chose sur l'enfant qui reste, par exemple. Ils vont vouloir parfois combler le vide ou le manque de celui qui est parti. Donc, Brigitte parlait de poids sur les épaules et c'est vrai que ça, c'est une pression. Pareil, c'est pas forcément conscient, mais c'est une pression qu'on peut ressentir. Et donc, l'enfant, ça, il peut mal le vivre. Alors, il peut voir son parent qui est triste. Ça peut le toucher également. Et puis, son frère ou sa sœur peut lui manquer tout simplement aussi.
Sandra Wakelin.
La famille, c'est un rouage, comme une horloge suisse. Donc effectivement, tout s'imbrique. Et quand il y a des grains de sable ou parfois des pièces qui manquent, effectivement, c'est toute une réinvention de la famille en elle-même qui doit être mise en place. Et donc effectivement, tous les rôles sont répartis différemment quand il y en a un qui est plus là pour remplir un certain rôle familial.
Alors les parents vivent une rupture. La philosophe Claire Marin rappelle dans son beau livre que la rupture n'est pas une coupure franche, bien droite, nette. Quelle est la particularité de cette rupture, Charlotte Attry?
Cette rupture, alors sur le plan par exemple du couple, quand on est un couple, l'enfant part, le couple va se retrouver à table à deux, en tête à tête. Il n'y a plus l'animation de l'enfant, il n'y a plus les questions. Et là, on se retrouve retrouve avec donc une relation qui est presque nouvelle et qu'il faut réinventer. Donc la rupture, elle a du bon aussi parce que ça va permettre de voir des choses qui peut-être n'allaient pas. Parfois, on s'est mis la tête dans le sable pendant des années. Ça, dans les couples, ça arrive souvent. Il y a souvent des séparations à ce moment-là. Alors, pas nécessairement. Hein, ça peut être l'occasion de se renouveler aussi dans son couple. Mais cette rupture, elle a ça un peu de particulier. C'est que l'enfant part créer une rupture sur le plan familial qui peut avoir une incidence sur des tas d'autres plans, notamment intimes et personnels.
Corinne Mayer, vous publiez Dehors les enfants, votre réflexion sur ce qui vient d'être dit.
Oui, mais ça, effectivement, c'est vrai, quand un enfant part, ça a des conséquences sur les parents, les frères et sœurs, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse que de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, il y en a un qui part, par exemple, et l'autre qui se dit, oh, bon, finalement, il y en a un qui est parti, je suis bien dans ma chambre, c'est pas la peine de s'énerver trop, les parents, ils ont moins de travail, bon, ben voilà, je prends mes aises et puis je m'incruste. Donc, c'est à double sens, on sait jamais exactement comment ils vont vivre les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que, ben, en effet, il faut un petit peu construire, disons, l'environnement pour qu'ils comprennent qu'il faut prendre son autonomie et puis laisser les parents, effectivement, retrouver leur marque dans une nouvelle phase de leur vie où ils doivent aussi être autonomes.
Sandra Wachnin.
C'est une révolution, en fait, dans le sens où tout change. Donc, effectivement, tout doit être réadapté. C'est une évolution du couple, hein, comme l'arrivée du premier enfant est une évolution du couple, comme la retraite est une évolution du couple, comme le mariage en est. Donc effectivement, ça fait partie des stades d'évolution, de révolution du couple.
Et ça peut faire exploser le couple.
Ça peut, complètement. Parce qu'effectivement, voilà, c'est en fait tout l'intérêt, quand souvent tout l'intérêt est porté sur les enfants. Encore une fois, ça laisse trop d'espace pour ben, du vide.
Ou alors, voilà, on se rend compte qu'on a
en fait, on a plus rien à se dire.
Mais de façon générale, rien ne fait plus peur aux gens que la liberté, finalement. Enfin, ouais. Certaines personnes, pas toutes. Hein. Il y en a qui sont ravis et puis d'autres qui se disent « Ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?»
Bonjour Séverine, bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors, bonjour, vous appelez de Velleron, c'est ça?
Exactement, dans le Vaucluse.
Alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour consacré au syndrome du nid vide?
Moi, ça me parle complètement parce que j'ai deux filles, une qui a 22 ans et une de 24 ans maintenant, qui toutes les deux ont été obligées de partir de chez nous pour des études supérieures. Donc ça, je vous donne un conseil, habitez en campagne si vous voulez que vos enfants partent. Parce que quand ils continuent leurs études, ben, ils sont obligés de quitter le nid. J'ai fait une petite dépression, je pense, au départ de la dernière, en fait. Ça a été assez difficile, mais c'était vraiment avant qu'elles partent. Les 6 mois avant étaient très douloureux. J'appréhendais énormément son départ, j'étais très triste et je me demandais justement comment j'allais pouvoir remplir ma vie parce que je bossais, mais j'avais adoré être maman et m'occuper de mes enfants. Parfois un peu trop, elle me le rappelait, quoi. J'étais un peu trop là. Et puis la dernière est partie. Et oui, un fait marquant aussi, il y a eu les 18 ans d'une de ses amies, des gens très proches de nous, et la maman avait fait un super PowerPoint avec des images depuis la naissance jusqu'aux 18 ans de sa fille, et ma fille apparaissait parfois. Et là, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. C'était une fête hein, et j'étais d'une tristesse infinie de voir ce temps passer. Et puis, j'ai un mari formidable hein, qui, au départ de notre dernière fille, finalement, a créé plein de petits moments qu'on avait plutôt oubliés parce qu'on avait des enfants et qu'on rentrait tout le temps à la maison pour eux. Et donc, on s'est mis à aller boire un café en terrasse, à partir faire un tour de scooter ou une journée en moto. Et mon mari a été génial pour ça. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment accompagnée dans cette transition. Et ce qui est super, c'est que, en fait, on a maintenant une nouvelle page de vie, une nouvelle tranche de vie pour nous. Et la vie est quand même super bien faite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps pour tout, un temps pour faire les enfants, un temps pour les élever, et puis un temps pour s'aimer à nouveau deux adultes seuls sans les enfants. Voilà. Alors, c'est vrai que les enfants, c'est pour la vie. Hein. On les a, nous, encore, avec le Covid, elles sont revenues, etc. On se fait du souci pour les avenirs professionnels et tout. Mais malgré tout, c'est aussi une renaissance. Hein. Le fait qu'ils partent, c'est une renaissance pour le couple. Hein. Donc, vraiment... faut pas forcément avoir peur.
Charlotte Attrie, sur le joli témoignage de Séverine.
J'aime beaucoup le mot que Séverine a choisi, le terme de renaissance. Je trouve que c'est tout à fait ça, parce que ce soit dans le couple ou à titre personnel, on a interviewé beaucoup de femmes dans le livre, et c'est revenu beaucoup, c'est l'occasion aussi de redéfinir un petit peu son chemin, où on a envie d'aller, et puis de prendre le temps qu'on n'avait pas forcément, ou qu'on mettait un peu de côté, pour soi. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire sur le plan pro, parfois amical, amoureux, et voilà, c'est voir le nid du bon côté, quoi, essayer d'en faire quelque chose. C'est une liberté retrouvée quelque part, hein, donc.
Sandra Wachnin.
Effectivement, voilà, c'est une rupture sans. mais qui garde du lien. Donc c'est en ça où c'est différent, c'est une rupture très particulière. Et félicitations à votre mari qui a su prendre le contre-pied de ses difficultés.
Merci beaucoup Séverine. Alors Criquet 84 nous écrit, vous ne parlez que des parents qui restent seuls, mais quid des femmes qui sont seules? Et pour elles, c'est encore plus difficile. Brigitte Carrère.
Oui, oui. Après, je voulais juste revenir sur un point également. Elle a parlé beaucoup de nostalgie, Séverine. Et en fait, c'est vraiment important de se rendre compte que quand on souffre un petit peu de ce syndrome du nid vide, on se regarde soi-même et on regarde ce qui s'est passé avant et on a un gros sentiment de nostalgie sur des moments qui ne reviendront pas. Mais il faut quand même se dire que de toute façon, même s'il revenait, il serait vraiment plus du tout les mêmes.
Alors sur les femmes seules, justement, qui vivent ce syndrome du nid vide.
Oui, alors là, sur les femmes seules qui vivent, tout dépend de la situation, en fait. On peut avoir vraiment un grand éventail de. Tout dépend si elles sont un petit peu comme les couples, si elles se sont beaucoup investies sur leur enfant, si elles ont elles-mêmes une vie à côté, si elles ont montré. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques que s'il s'agissait d'un couple, en fait.
Sandra Wacklin.
Oui, effectivement. Enfin, tout dépend de l'investissement de leur vie personnelle. Après, si on imagine des femmes où il y a une garde alternée, par exemple, avec une semaine sur deux, elles ont effectivement déjà l'habitude, une semaine sur deux, d'être focalisées sur elles, sur leur vie personnelle. Et donc, peut-être que la transition sera peut-être un peu plus simple.
Et puis la sensibilité au nid vide dépend d'un ensemble de facteurs. Il est bon d'être vigilant si j'ai été mère ou père au foyer, si je suis parent solo, si j'ai eu un enfant seul. Charlotte Attrice, important d'être vigilant à ça.
Tout à fait, il y a plein de critères qui vont rentrer en ligne de compte, à la fois sur les événements de cette période de vie particulière où il peut y avoir beaucoup de changements, et puis effectivement sur l'histoire qu'on a eue avec son enfant, donc une maman solo qui a élevé son enfant toute seule, par exemple, un enfant qui a été malade. Ce sont effectivement des critères qui fragilisent un petit peu. Donc quand on sait qu'on est dans ces critères-là, on y prête un petit peu attention.
Allez, dans un instant, on verra quels sont les outils pratiques pour bien réussir cette sortie du syndrome du nid vide. Il est temps. Vous me faites bafouiller, Eric Libio. Je suis tellement ému de vous revoir.
Je sais.
On retrouve vos choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libio.
Alors ça y est, les enfants sont partis, ils viennent de quitter le nid. Donc pas de déni, ce n'est plus possible de leur parler, de les embrasser, de leur faire des reproches de vive voix ou de les féliciter en les serrant dans les bras. Il va falloir passer au texto, qui en l'occurrence sont plutôt des textards, vu le temps qu'ils mettent à répondre. Alors j'exagère, ma fille Alice répond tôt, mais mon fils Clément est plus discret, ce qui est un euphémisme, alors bon, j'ai fait une moyenne. Et l'autre jour, ma fille m'envoie une photo de la façade d'un bâtiment, la Gaîté Lyrique à Paris, là où se déroulait le festival podcast organisé par le camarade Thibaut de Saint-Maurice. Alors en fait, ce n'était pas une photo, mais une petite vidéo. Bon, déjà je m'étais planté, puisque tout à coup, ma fille fait un mouvement avec son téléphone, une sorte d'aller-retour. Alors moi qui suis très pointilleux sur l'esthétique, je lui fais remarquer que ça bouge et c'est quand même très moche. Et elle me répond, oui, c'est un boomerang. Alors là, je pense à un message secret. À 27 ans, Alice fait allusion à l'effet boomerang dont vous parlez dans votre livre. L'enfant part et puis revient. Alors je me réjouis un peu vite car je lui demande la signification de ce boomerang. Et elle me répond, c'est un peu d'action quand t'as une photo pas très intéressante. Bon, j'acquiesce, mais je lui rétorque que c'est finalement assez idiot. Ce à quoi elle me répond, tu taffes. Alors pause 1. Alors parfois j'ai l'impression qu'en partant de chez leurs parents, les enfants laissent quelques voyelles et quelques consonnes dans la corbeille. Ils habitent dans des appartements plus petits, donc l'alphabet qu'ils utilisent se rétrécit également. C'est un phénomène assez curieux. En fait, « tutaf » signifie « tout à fait ». Alors moi, tant qu'à faire, j'aurais plutôt écrit ça « TTAF », c'est tout de même beaucoup plus clair, comme « TKT » signifie « t'inquiète » ou « MDR »« mort de rire ». Tu taffes, ce serait plutôt pour me demander si je travaille, par exemple. Elle me répond roh, R-O-H, mot dans lequel on peut mettre plusieurs O selon le degré d'amusement que l'on veut signifier, ce qui est effectivement logique. Alors ensuite, je dois reconnaître que je me suis planté, le truc du père totalement hors-jeu. Je lui réponds, Ziva, continue, je vais faire une chronique sur le langage des jeunes, le langage texto des jeunes. Alors, pause 2. J'aime bien l'expression Ziva, ce qui signifie vas-y en verlan. Ça fait un peu Shiva, le dieu qui détruit pour reconstruire, ce qui va bien avec cette langue texto qui se réinvente sans cesse. Ceci pour donner un peu de poids à cette chronique, on est quand même sur France Inter, hein, faut pas non plus exagérer. Et là, ma fille me dit, fais gaffe, Ziva, c'est terminé, comme Wesh d'ailleurs, ou Chamé. Et je peux pas t'aider pour ta chronique, je suis plus dans le game. Alors je lui demande, mais tu es déjà dépassé, je lui demande ça en bon français. Elle me dit, oh ben grave, dit-elle, et puis mazette, c'est moi qui le dis. Alors, donc ma fille utilise le mot mazette, quand même, pour signifier sa surprise. Alors mazette, c'est un mot qui désigne vers 1640 un mauvais petit cheval, puis par glissement, il désigne un homme sans courage, puis en 1834, il marque la surprise ou l'admiration, sans qu'on sache vraiment comment on est passé d'un cheval à la surprise, en tout cas un arrêt dans son dictionnaire ne le précise pas. Mais c'est ce qu'il y a de beau avec la langue française, elle s'envole elle aussi et se transforme sans cesse sans savoir où elle va se nicher. Faut juste être assez rapide pour en goûter toutes les transformations ou les effets boomerang, hein, comme ce mazette revenu des temps anciens. Alors je sais pas si mazette va faire école, d'ailleurs personne ne sait combien de temps vivent les mots inventés ou redécouverts, mais j'aime bien comme ma fille l'utilise. Et puis tout à coup, le ciel s'éclaircit au-dessus de cette langue française et ce phénomène me sidère toujours. À l'origine, en 1622, le mot mazette vient de mésange, ce petit oiseau qui ne différencie pas les garçons des filles et qui un jour ou l'autre quitte son nid.
Éric Libio, mais sachez que hier dans un SMS j'ai utilisé les diantres, voyez ?
Ah oui.
Mais bon, je suis beaucoup plus vieux que votre fille.
Oui, donc, c'est vrai, ça se voit d'ailleurs.
Merci beaucoup, c'est gentil. Vous passerez à la compta tout à l'heure. Et on peut écouter votre chronique sur l'appli France Inter. Allez, juste après Benjamin Biolay, on verra comment anticiper le départ des enfants de la maison. Ma route, Benjamin Biolay.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé les checkpoints, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule regarder la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule.
J'ai parcouru les villes, j'ai traversé le globe. Jamais le mois civil, t'as toujours le plus sobre. Je rêvais de presqu'île, dans la cour de l'immeuble. Lassé d'être immobile et de faire partie des meubles. J'ai traversé le siècle, tel l'enfant d'un autre. Jamais le plus sélect, pas avare de mes fautes. Hier c'est le printemps, demain c'est le tombeau. Bienheureux ceux qui croient que leur survivent les mots. J'ai survolé l'azur, j'ai survolé les mers. Contrebandier c'est sûr, vas-y demande à ta mère. En regardant l'océan comme un vieillard mourant. Et je levais mon verre à tous les éléments. La route, la route.
Benjamin Biolay interprétait La route.
Pourquoi vous invitez plus jamais personne à la maison? C'était agréable.
Grand bien vous fasse.
Quand on te demande, tu réponds, c'est parce que notre fils nous casse les couilles.
Ali Rebéi.
Je peux sortir ce soir, papa?
Non. J'ai d'ailleurs.
Sur France Inter.
10h51, on s'intéresse ce matin au syndrome du nid vide quand les enfants quittent la maison.
Au départ de Marius, je vais peut-être voyager encore plus à l'étranger, comme je le fais déjà, mais ce sera peut-être plus encore partir... voilà, jouer dans des pays étrangers, alors que jusqu'à maintenant, j'évitais de partir en tournée pour être au plus près des enfants. Et là, peut-être que c'est une ouverture possible de voyager davantage. Donc, ça ouvre des possibles de chaque côté.
Extrait du documentaire « Ni plein, ni vide » diffusé sur France 3 en 2019. Corinne Mayer, vous avez vécu une seconde lune de miel avec votre mari quand votre fils est enfin parti.
Alors le livre est quand même en partie une fiction. Donc là, vous parlez de la Corinne Mayer du livre.
Du livre, voilà,
donc,
dehors les enfants.
Dehors les enfants.
Qui me ressemble beaucoup.
Elle me ressemble beaucoup, c'est vrai. Et en effet, elle était tellement contente que son fils parte enfin qu'elle a vécu une seconde lune de miel avec son mari. Et forcément, il y a des couples qui s'épanouissent à nouveau, enfin qui retrouvent de nouvelles marques très agréables de liberté quand leurs grands-enfants parviennent enfin à quitter la maison.
Alors Charlotte Attry, Brigitte Carrère, il est bon d'anticiper les choses. Hein. Comment on s'y prend, Charlotte Attry?
On sait bien que le rôle de l'éducation, en fait, c'est de permettre à ces enfants de devenir autonomes. On fait des enfants pas pour les garder pour soi, mais pour leur permettre de s'envoler à un moment donné de leur vie, quoi. Donc quand ça s'apprend très tôt, et c'est-à-dire que c'est aussi aux parents de donner ces marques-là. Donc alors il y a des choses du quotidien très pratiques, hein, moins gérer les rendez-vous médicaux, les laisser libres de gérer leur emploi du temps, pas être derrière leur dos tout le temps, et puis plus ils grandissent, plus il va y avoir des étapes comme ça, leur laisser gérer leur argent petit à petit. Ce genre de choses, ça va leur permettre de s'autonomiser, et puis le parent va laisser un petit peu ces tâches-là et avoir un peu plus de temps pour lui.
Quelle est la différence entre l'autonomie et l'indépendance, Brigitte Carrère? Ça tombe sur vous. L'indépendance, c'est ce qui arrive au bout du chemin. C'est une fois l'autonomie acquise.
Oui, voilà. Ouais. Et l'autonomie, de toute façon, on donne pas de l'autonomie. On va donner des éléments qui, éventuellement, vont permettre à l'enfant de trouver sa propre autonomie. De toute façon, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que plus on leur donne de l'autonomie et plus nous, parents, père, mère, on va bénéficier de ça. Et moi, je sais que mes enfants, quand ils étaient tout petits, quand ils se levaient le matin, ils étaient capables de se préparer leur petit déjeuner. Je leur faisais pas, je leur mettais pas leurs céréales, etc. Pareil pour les devoirs. Ils ont toujours fait leurs devoirs tout seuls. Mais c'était moi qui profitais de ça. Et donc leur donner ces éléments qui vont leur permettre d'être autonomes. En fait, le bénéfice, c'est que nous on est contents et on va vivre mieux.
Sandra Bakin. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
C'est savoir repenser à soi, en fait. C'est justement s'alléger aussi de cette charge mentale, hein, et donc se dire, bon, je vais pouvoir récupérer
ce précieux temps pour soi, en fait, dont tout le monde manque cruellement.
Quels sont vos conseils pour que ça se passe au mieux, Sandra Bakin?
Pour la mère, pour l'enfant,
pour
tout le monde. Alors déjà, effectivement, il faut l'anticiper.
Et le père aussi, il faut pas l'oublier.
Oui, enfin, n'oublions pas le père. Alors moi, vraiment, ce que j'applique comme conseil, c'est communiquer. Communiquer sur les attentes de l'après. Comment ça va se passer? À quelle fréquence on peut s'appeler? Est-ce qu'on préfère le texto? Est-ce qu'on préfère les appels? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est quel est le rythme pour garder le contact, hein? Parce qu'effectivement, le parent, il a quand même besoin de ce contact qu'il avait quotidiennement. Et derrière, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'aime bien, voilà, conseiller d'anticiper ça, d'en parler sur les besoins de chacun, sur la vision de qui va être satisfaisante pour tout le monde finalement.
Et puis les parents peuvent encore avoir de l'emprise avec leurs enfants qui sont partis, financièrement notamment, Charlotte Attrie.
Oui, parfois l'enfant n'est pas complètement indépendant. On parlait de la différence entre les deux. Bah, sur le plan financier, l'enfant n'est pas toujours indépendant et le parent va devoir derrière un petit peu aider. Donc il y a cet aspect-là. Et moi, j'aimerais souligner que souvent les parents, ils ont peur. Ils se disent, mais comment il va s'en sortir tout seul, mon Dieu, dans son appart et ses courses et tout ça. Il y a un petit travail à faire sur soi aussi, sur le fait que, et là c'est le parent hein, qui doit travailler là-dessus, c'est il va bien s'en sortir. C'est une angoisse un peu sécuritaire, quoi. Puis il faut réussir un peu à tempérer.
C'est un cercle vertueux. Plus on voit qu'ils se débrouillent bien, et plus ils se débrouillent bien, et plus nous-mêmes on est rassurés. Et puis ça va aller. En fait, ça peut aller très très vite.
C'est une clé de l'éducation. Excusez-moi. C'est faire confiance à son enfant, même très tôt en fait. Faire confiance à son enfant sur le fait qu'il va y arriver. C'est un conseil que je donne aux parents, même déjà de bébé, sur le sommeil. Faites confiance à
on
enfant.
Prépare le fait que les enfants
déjà,
quittent le
quand
nid.
Quand il vient de naître.
Le bébé vient de naître. Mais non.
Corinne Maillard. Alors moi je voulais dire en fait, il y a des chiffres qui montrent que les mères anglaises s'occupent 2,5 fois plus de leurs enfants maintenant que dans les années 70. Donc ça prouve à quel point on est prisonnier en fait, enfin surtout les femmes, de cette image de la mère qui donne tout. Et donc si j'ai un conseil à donner aux mères pour qu'elles soient très contentes le jour où leurs enfants quittent la maison, c'est occupez-vous moins de vos enfants. On s'en occupe beaucoup trop. On en fait après des mollassons, parce que c'est la conséquence directe en fait. C'est-à-dire à force de les poupouner en permanence, de leur dire bravo et je t'aime toute la journée, puisque c'est la grande tendance. Hein. Il faut booster le self-esteem, donc ça donne oui, c'est ça, l'estime de soi. Il faut les convaincre tout le temps qu'ils sont formidables, qu'ils vont réussir tout ce qu'ils font. Et ça donne en effet des, parfois, pas toujours, hein, parce que c'est pas simple, il n'y a pas de loi dans l'éducation. Mais enfin, ça peut donner des jeunes qui sont incrustés à la maison, qui refusent de faire quoi que ce soit de leur vie. Et donc, c'est très grave. Donc, si j'ai un conseil à donner aux mères, surtout, c'est désobéissez aux injonctions de la société parce qu'elles sont mauvaises. Elles vous poussent à faire de mauvaises choses et de mauvais choix avec vos enfants. Et vous serez vous-même jamais autonome et vos enfants non plus.
Non plus, ça les rend dépendants à votre regard en fait.
Éric Libiot, un petit mot de conclusion ?
Non, mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil. On est dans la théorie et le singulier, c'est-à-dire dans ce qu'on peut, les conseils qu'on peut donner aux uns et aux autres, et puis on se rend compte assez rapidement que chacun se débrouille, on fait comme on peut, qu'on se trompe, mais il faut savoir qu'on se trompe, et puis parfois on réussit.
Merci pour cette belle conclusion, Éric Libiot. Merci beaucoup, Charlotte Attrie et Brigitte Carrère. Je recommande vraiment Toi et moi, on s'explique. Enfin, c'est la collection Le syndrome du nid vide. C'est publié chez Bambou Édition avec des illustrations de Princesse H. Merci Corinne Maillard. Dehors les enfants, c'est très drôle et c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup Sandra Wagnin d'être venue dans Grand Vous Fasse. Demain, on s'intéresse au rapport dans une fratrie qui accueille un enfant en situation de handicap à l'occasion de la sortie du nouveau roman de Clara Dupont-Monod.